Philippe Denis, Diego Arrabal, nous nous retrouvons pour une semaine et tranquillement, hein, nous allons arriver vers le mois de juin. Hein. On est encore loin, mais tranquillement, avril, mai, juin, jusqu'à la fin de cette saison radiophonique qui nous laisse encore quelques chroniques.
11e année d'ailleurs, hein, je le précise.
11e année.
11e saison.
Et nous allons recevoir quelqu'un, un tarbé. Célèbre,
emblématique,
et quelqu'un de formidable. Alors, c'est vraiment quelqu'un à connaître.
C'est un personnage.
La personne qu'on va recevoir de suite, parce que.
Alors, c'est pas une personne, c'est un personnage. Hein.
Oui, c'est plus que ça. Voilà. C'est plus que ça.
C'est
incroyable.
Personnage.
Je vous laisse bien sûr le soin de dévoiler qui est notre invité cette semaine.
De dévoiler qui est l'invité. Alors, il faut savoir que notre invité, il est multicarte. Hein. Ça, je pense qu'on peut le présenter comme ça. Chanteur, directeur donc d'une scène internationale, écrivain. Voilà, c'est aussi pour ça effectivement qu'on le reçoit aujourd'hui. Hein, donc il écrit des bouquins qui sont toujours emprunts hein, effectivement d'univers musical, parce que ben, c'est l'univers effectivement dans lequel...
Qui connaît et qu'il excelle.
Il excelle, je veux dire, bon, c'est même un maître S.A.R. Effectivement au niveau culture musicale. Et j'espère que quand il sera à la retraite, il nous rejoindra dans un jour un livre, un auteur, parce que je pense qu'on pourra faire des émissions fabuleuses avec lui sur le... On en avait fait déjà, rappelez-vous, notamment sur le rock, sur les acquaintances entre le rock, etc., les mouvements politiques.
Il est à l'origine d'un festival sur table, Rockabilly.
Oui, exactement. Voilà. Et il a commis donc un nouveau livre qui s'appelle « Un chemin de Harlot », d'accord, qui est publié aux éditions Arcane 17. Et il s'agit, bien entendu, de Pierre Domingès. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour. Mais écoutez, moi, j'allais vous laisser parler, là, parce que c'était très bien.
Vous posez le téléphone, vous partez faire les courses, quoi. Hein, c'est ça, quoi.
Ah oui, Pierre, c'est toujours comme ça. Philippe, c'est 20 minutes de présentation, 3 minutes d'interview, voilà. Et puis bonsoir. Allez.
Voilà, merci d'être passé.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, voilà.
Il disait plein de gentillesse, c'est ça.
Ouais. Alors, Pierre Domingès, alors c'est vrai, hein, ça par contre, là-dessus, on ment pas. Hein, vous êtes vraiment quelqu'un de multicarte. Alors, vous allez déjà quand même vous présenter, parce que bon, vous êtes directeur d'une scène internationale. Aujourd'hui, si on vous a au téléphone et pas en direct dans les studios, c'est que, ben voilà, hein, vous êtes un homme effectivement occupé par la préparation donc de différents festivals et de la venue donc d'artistes.
Si on n'avait pas de whisky à lui proposer.
Et on n'avait pas de whisky à lui proposer, voilà. Ça, c'est... Mais la prochaine fois, on a prévoir. Hein, voilà,
oui.
C'est rédhibitoire, ça.
Ouais, on le savait. C'est ce qui...
Vous êtes venu une fois, il n'y avait pas de whisky, vous revenez
ouais,
plus.
Bon,
voilà.
Revenez plus, voilà. Mais promis.
On avait le café, on n'avait pas le whisky, on aurait pu faire un Irish Coffee, mais voilà, il manquait le whisky.
Voilà.
À consommer, bien sûr.
Avec modération.
Ou avec Pierrot.
Voilà. Alors, vous allez vous représenter, hein, Pierre Domingès, donc nous dire un peu quel est votre parcours avant qu'on en vienne effectivement à votre livre, donc à la fois sur la scène musicale, mais aussi au niveau de vos romans et recueils de nouvelles. On vous écoute.
Oui, alors donc, je suis Pierre Domingès, je suis le directeur de la SMAC, la GESP. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne suis pas avec vous, c'est que nous recevons Kezia Jones aujourd'hui, c'est un gros concert avec une salle complète, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, je ne peux pas trop m'éloigner. Sinon, je serais venu avec plaisir avec vous, ça aussi. j'ai vécu une jeunesse et une adolescence, quoi, très, très rock'n'roll, puisque j'étais chanteur de groupe, j'ai fait mon premier concert avec 15 ans, j'ai vécu l'aventure punk en direct et avec la chance d'être fils de cheminot qui me permettait de pouvoir me déplacer gratuitement à l'époque. Vous savez, on pouvait jusqu'à l'âge de 21 ans, quand on était fils d'employé de la SNCF, avoir accès à des tarifs gratuits sur la France et 75% de réduction sur les trajets. Donc j'ai pu vivre ce mouvement punk très jeune à Londres et puis la Movida, c'est-à-dire la version espagnole de ce mouvement à Grenade et Barcelone au début des années 80, quoi. Et ça m'a beaucoup inspiré dans la musique que je voulais faire. Et l'écriture est venue de là. L'écriture, elle est venue de, mais d'abord, écrire des chansons. Parce qu'on a toujours composé notre musique. Et donc, moi, j'écrivais les textes et certaines musiques. Et c'est vrai que l'écriture, je l'ai découverte un peu par hasard, quoi. Mais par le biais aussi de cet exercice d'écriture de chansons. C'est pour ça que je me suis tourné, au début je croyais que c'était par fainéantise, vers les nouvelles. Je pensais que c'était beaucoup plus simple, quoi. Mais c'était surtout parce que j'aimais bien le format qui était d'une nouvelle qui pouvait représenter comme un titre de un morceau de musique, quoi.
Alors, ce nouveau livre que vous avez publié, hein, on va en reparler, Un chemin de Harlot, donc de Pierre de Mangès, hein, qui est notre invité aujourd'hui, hein, pour les auditrices et les auditeurs qui prendraient cette émission donc en cours de route. Hein. Donc, aux éditions Arcane 17, c'est dans la collection Nouvelles Noires et Rouges. Alors, je vais lire la quatrième de couverture donc de ce recueil. Castle Rock, 1960. Gordon Lachance, 12 ans, ainsi que ses trois meilleurs amis, Chris Chambers, Vern Tessio et Teddy Duchamp, profitent des derniers jours des vacances d'été. Par hasard, ils apprennent que le corps d'un garçon disparu se trouverait le long de la voie ferrée, au bout du chemin de Harlot, à plusieurs dizaines de kilomètres de la ville. Les quatre enfants, en proie à l'abandon et parfois à la violence de leurs parents, décident de partir à la recherche du cadavre. Ce début du roman de Stephen King, The Body, est l'entrée du recueil de Pierre de Mangès qui devait s'apparenter à une simple et inoffensive balade en territoire rock. Mais au fil des rencontres, en compagnie de quelques artistes oubliés, de losers magnifiques ou de poètes cabossés tels Calvin Russell, Ton Van Zandt, Joe Strummer, Didi Ramones, son récit se mue en abécédaire du rock'n'roll. Car en traversant les forêts, les villes et les marécages, on aperçoit tapis les monstres et les drames. Et s'il n'y en a pas, on les invente jusqu'à les abandonner au bout du chemin de Harlot. Pourquoi avoir composé ce recueil de nouvelles, Un chemin de Harlot, Pierre de Mangès? C'était pour rendre un nouvel hommage donc au rock'n'roll tel que vous l'aimez et que vous l'avez vécu donc comme un fil rouge, hein, depuis votre jeunesse?
Oui, au départ, le désir, c'était de faire une sorte d'abécédaire du rock'n'roll. Que j'avais prévu d'appeler l'abécédaire du rock'n'roll, raconter aux enfants, interdit aux parents, parce que j'ai toujours considéré que le rock'n'roll était une musique de récréation aussi, quoi. Et donc, d'enfance. Et puis, au fil d'écriture, où j'essayais d'évoquer ces personnages de ce rock que j'ai aimé, qui sont mes personnages de livres, quoi. Parce qu'il y a des destins absolument fabuleux, quoi, sur ces personnes, dont certaines sont moins connues, mais qui ont apporté beaucoup à cet univers. Au fur et à mesure, j'ai presque pensé à une espèce de voyage initiatique, quoi, parce que j'ai retrouvé aussi beaucoup de rencontres, et puis je retrouvais toujours cette espèce de lien entre le rock et les hommes, quoi, c'est-à-dire une musique intimement liée avec les mouvements de l'histoire, de la société, et tous ces paradoxes qu'il y avait au cœur de ces êtres. Et finalement, ça m'a... il y a une nouvelle que j'ai écrite sur lequel j'évoque Jean Vincent, etc., une bande d'adolescents, et ça m'a fait penser à ce film, d'abord, parce qu'avant de lire la nouvelle, j'ai vu ce film Stand By Me, qui est un film magnifique, vraiment, qui a beaucoup compté pour moi, quoi. Et avec ces gamins qui sont en recherche d'eux-mêmes, quoi, enfin, qui vivent leur passage, le passage entre l'adolescence et l'âge d'homme, et qui ont besoin de ce rite, de trouver le drame, quoi. Parce que c'est un drame, quoi. Leur camarade est mort, on le sait, mais on n'a pas retrouvé le corps. Et ils ont besoin d'aller chercher ce drame. Et je crois que c'est un point commun avec beaucoup des artistes que j'évoque, quoi. Dans ce livre, il y a toujours la présence du drame, quoi. Et ça rend beaucoup plus de force à leur œuvre musicale.
Alors, j'ai une question parce que, bon, vous êtes d'origine espagnole, Pierre Domingès, et moi, ça m'évoque une chose quand même, au-delà du rock, cette absence que vous dites, ça m'évoque le livre, alors ça tombe bien, il est en studio avec moi, hein, Jour de colère, de Diego Arrabal, qui parle d'un phénomène que vous connaissez bien, hein, c'est cet enlèvement donc, d'enfants sous le régime donc, de Franco. Est-ce que, quelque part, pour vous, Pierre Domingès, et je vais poser la même question après à Diego Arrabal, est-ce que pour vous, Pierre Domingès, c'est aussi une évocation presque inconsciente, un peu comme, là, vous dites, ces trois garçons hein, qui cherchent ce corps disparu, qui veulent aller chercher ce drame. Est-ce que c'est aussi inconsciemment d'aller chercher ce drame qu'a vécu l'Espagne? Je crois que c'est 80 000, Diego Arrabal, c'est ça?
Oui, à peu près, entre 60 et 80 000.
Entre 60 et 80 000. Est-ce que ça évoquerait aussi cette partie-là, qui correspond hein, à votre partie hispanique, hein, que vous avez en vous, comme Diego Arrabal, et qui aurait pu vous amener à commettre ce livre à un chemin de Harlow. Est-ce que je me trompe en disant ça ou pas?
Peut-être qu'inconsciemment, ça y est, parce qu'effectivement, ce qu'évoque Diego et que j'ai pu aussi parfois évoquer dans des nouvelles, quoi, notamment sur le livre sur l'amour de Franco, oui. Qu'on avait édité ensemble.
Franco la Muerte, oui.
Voilà, Franco la Muerte. Et où effectivement, c'est une histoire de une psychothérapie par rapport à un enfant qui n'avait pas été volé, mais qui cherchait encore quelle était sa mère, quoi. Il y a toujours, c'est pareil, ce sont des gens qui vont rentrer dans la vie et qui doivent se débrouiller comme ils peuvent avec des drames qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas. Donc, peut-être qu'inconsciemment, il y a ça. Mais c'est vrai que cette musique, le rock'n'roll, m'a toujours évoqué, j'allais dire l'adolescence, mais aussi l'enfance, quoi. Parce que, au départ, c'est ce qu'on appelle les belles années, quoi. C'est une musique de danse, c'est une musique où on s'habillait, c'est une musique où on rencontrait les premières flirts, etc. Mais au-dessus de ça, il y avait toujours quelque chose de noir, quoi, et que le rock'n'roll avait compris et essayait d'évacuer comme il pouvait, quoi. Plus la guerre, même en France, quoi, au moment de la guerre d'Algérie, quoi, ce qu'on appelait les blousons noirs, qui organisaient les concerts, Place de la Nation, etc. C'était aussi pour évacuer tout ça, quoi. Et je crois que ce drame permanent et cette mythologie qu'il y a autour de certains artistes, c'est quelque chose qui me pousse à écrire là-dessus, quoi. C'est toute cette imagerie qu'il y a autour du rock'n'roll m'intéresse.
Alors, je rappelle le titre hein, de votre recueil de nouvelles, Un chemin de Harlow, Pierre Domingès, donc aux éditions Arcane 17. Quand on prend ce que vous appelez donc en fin de roman la playlist, vous avez en fait donc Un chemin de Harlow avec Stand by Me, hein, donc la chanson, et vous avez en fait à chaque fois donc Du sang dans la prairie, Où sont tous mes amants, Fréhel, on trouve après en 5 La solitude du directeur artistique, Les spécialistes de Léo Ferré. En fait, vous rendez hommage à chaque fois à des chanteurs différents dans ces nouvelles. Ça a été une volonté, ça, de lier un artiste avec une nouvelle?
Oui, complètement. C'était pour moi le fil rouge du bouquin. Il fallait qu'absolument une nouvelle, une fiction ou pas, d'ailleurs, s'il y a des histoires qui sont assez proches de la vérité, soit liée avec des artistes, soit qui ont compté dans ma vie, soit qui ont apporté tellement à ces musiques et qui sont un peu inconnues, quoi. Tan Van Zandt, par exemple, qui a une destinée terrible, c'est un fils de famille excessivement riche américaine, quoi, et lui a décidé de partir avec sa voiture pour rencontrer la country, quoi, et puis s'est fait héberger par des familles indiennes et mexicaines, etc. Et il a écrit pendant son road trip, quoi, il dormait dans la voiture, et on se rend compte pas mal d'années, il est décédé, bon, évidemment, c'était des gens qui étaient dans les excès, quoi. Tout ce qu'il a apporté et tout ce qu'il a inspiré, quoi. Comme beaucoup, quoi. Victor Démé, par exemple, ce bluesman africain qui a révélé un nouveau blues soit sur au niveau planétaire, quoi. Ces gens-là, ils ont été un petit peu mis à l'écart, quoi, parce qu'ils n'étaient pas dans le showbiz, parce qu'ils n'étaient pas produits, parce qu'ils n'en avaient pas envie, parce qu'ils étaient fragiles, maladroits, mais ils ont créé de véritables pépites, quoi. Et j'avais envie de le raconter, et parce que c'est pour moi la véritable image de ces musiques. Alors effectivement, je parle beaucoup de rock'n'roll, mais dans le bouquin, quand je parle de Fréhel, c'est la chanson. Quand je parle de Léo Ferré, bien sûr, c'est la chanson aussi. Il y a aussi du flamenco avec l'évocation de la Chana, cette danseuse, magnifique danseuse de flamenco qui ne peut plus tenir debout et qui continue à danser sur un fauteuil. C'est juste hallucinant, ces gens-là.
Alors, une intervention de Diego Arrabal.
Eh ben, c'était pas vraiment une intervention, c'était simplement le plaisir de lire un extrait de vos... Alors, c'est des nouvelles, c'est des récits, c'est des notes. Alors, donc, je vais lire une qui s'appelle Adriane. Le mois d'avril londonien était frais. Adriane sentait le froid mordre le bout de ses doigts. Il avait du mal à boutonner sa chemise, mais il s'obstina jusqu'au bouton du col. Autant être élégant en ce jour. Tout était là dans sa besace, un long bagage d'obscurité, de solitude et de tristesse épique. Tout était là dans ce noir paradis qu'il s'apprêtait à quitter. Traverser, explorer et se déchirer, magnifique sur tant de scènes, ne lui avait pas redonné une once d'amitié pour lui-même. Il l'avait écrit « Je suis seul en mon unique compagnie, seul avec celui que je crains le plus ». Adriane avançait le long du quai et la charge sur son dos lui était de plus en plus lourde. Les sons s'éteignaient, seule une basse lancinante résistait et habitait encore son pauvre corps de dandy abîmé. Le répit fut de courte durée. Les musiques réapparaissaient, ravivant des souvenirs d'arènes, de chrétiens jetés au lion. Elle se faisait plus forte, plus austère, se cognait contre les pierres d'un long couloir noir. Les sons s'atrophiaient sans pour autant baisser en intensité, malmenés par l'écho des catacombes. Adriane errait sur la scène tel un phalène à la recherche d'un bout de lumière. Lorsque revint le silence et que ses poumons purent de nouveau accueillir l'air de ce printemps qui n'en finissait pas de se frayer un passage entre les dernières mâchoires de l'hiver, il entendit la promesse du train qui s'apprêtait à traverser la petite gare de Wimbledon. Ce fut son dernier projecteur. Vous parlez là d'un auteur, enfin d'un chanteur. Est-ce que vous pouvez nous dire de qui il s'agissait?
Alors, Adrien Morland, c'était le chanteur d'un groupe anglais qui s'appelait Les Sands. C'est un groupe qui n'a pas fait beaucoup, beaucoup d'albums, mais qui ont été très importants sur la ce qu'on appelait le post-punk anglais, quoi. C'est-à-dire que il y avait une énergie très, très punk, mais en même temps, ils utilisaient des claviers, ils utilisaient des sons un petit peu prémices, des sons électro. Et c'était surtout un poète, quoi, cabossé, comme je les appelle, quoi. C'est quelqu'un qui était très, très attaché à la littérature française, notamment à la poésie. C'est quelqu'un qui aimait Baudelaire, Verlaine, etc., qui en parlait souvent, quoi. Et qui avait une écriture très sombre. Et qui, effectivement, s'est suicidé à Wimbledon, quoi, sur la petite gare de Wimbledon. Et c'est pareil, c'est un groupe que l'on redécouvre maintenant, quoi, qui a été très connu sur l'Angleterre pendant 2-3 années, qui sont sortis, et puis lui, il est parti après sur des tournées où il jouait dans des bars en Australie et autres, quoi, seul à la guitare, mais toujours avec ce sens de la poésie, et il parlait, encore une fois, il parlait beaucoup de l'amour qu'il avait pour la littérature française, quoi. Ce sont vraiment des personnages de romans, quoi.
Alors, vous dites effectivement, aussi dans ce que vient de lire Diego Arrabal, hein, vous mettez à la fin de chacune des nouvelles, qui était cette personne. Alors là, je vais lire, hein, ce que vous écrivez donc dans cette nouvelle qu'a lu Diego Arrabal, Adriane. Donc, Adriane Borland était le chanteur du groupe Post-Punk The Sound, qui traversa la scène britannique sans avoir le succès qu'il méritait, Pour autant, de nos jours, le public n'en finit pas de redécouvrir ce groupe magnifique. Alors moi, j'avais une question. Là, vous avez dit qu'Adrian Borland était un grand admirateur donc, de Verlaine et de Baudelaire, hein, qui était contemporain des peintres impressionnistes, qui ont tous terminé quelque part dans la misère, qui n'ont jamais eu le succès qu'ils devaient avoir. Est-ce que vous pensez qu'un excellent chanteur, c'est quelqu'un qui, à la limite, va être découvert une fois qu'il sera mort ?
Non, parce qu'il y a des excellents chanteurs qui ont vécu le succès, par le Clash, par exemple, Joe Strummer, et puisqu'on évoquait Léo Ferré, il a vécu le succès de son vivant aussi, quoi. Par contre, il y a dans certaines coins de musique, sur des musiques qui ne sont pas franchement, on va dire, par exemple, quand on parle de Tom Van Zandt, on va dire c'est de la country, mais ce n'est pas que de la country, c'est de la chanson, c'est parfois un petit peu blues, des coins de musique qui sont un peu limitrophes, parce que les gens ont essayé de sortir des cadres précis, ceux-là peuvent s'y perdre, mais parfois c'est volontaire. Dans le bouquin, j'évoque Kevin Coyne, qui était un infirmier psychiatrique, quoi. Et pour évacuer un petit peu la douleur qu'il recevait avec les gens, les patients qui fréquentaient, il écrivait aussi beaucoup de poèmes, et il racontait l'histoire de ces personnes-là, quoi. Et il a été découvert un petit peu par hasard, jusqu'à faire quand même la scène de Woodstock. Et puis, après, il a écrit il a fait des tournées, il a écrit des disques, mais il n'a pas eu le succès qu'il aurait pu avoir. Pour autant, vous avez Springsteen, par exemple, vous avez des grands musiciens mondialement connus qui le citent comme référence.
Un chemin de Harlow, Pierre de Manzès, Arcane 17, Nouvelle Noire et Rouge. Merci beaucoup, Pierrot de Manzès, de nous avoir accompagnés. Bon concert. Et écoutez, on espère vous revoir prochainement. Et donc, on a bien compris que vous accompagnerez ce livre dans différentes manifestations littéraires.
Eh bien, Pierrot, à bientôt. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir bientôt lire des premier jet de votre futur roman, mais celui-ci il va faire un beau tour, notamment peut-être cet été avec les itinérantes d'Arcane 17, je suppose.
Oui, bien sûr, on va être sur le coup. Il y a déjà pas mal de choses qui sont en train de se caler. Bon, ça commence jeudi avec donc la présentation officielle du bouquin dans les locaux d'Arcane 17, et puis il y a déjà pas mal de rendez-vous qui sont pris sur Tarbes, sur Caserres, sur Toulouse, sur Lannemezan, et dont certaines qui feront partie du salon itinérant d'Arcane.
Et il y a un site où on peut savoir connaître les dates des différents rendez-vous, Pierrot de Manzès. Est-ce que c'est sur le site des éditions Arcane 17, Pierrot de Manzès?
Pas encore, parce que la plupart ont été validés hier, quoi. Il y a eu 3
d'accord. Bon, donc il suffit d'aller sur le site des éditions Arcane 17, effectivement, voir.
Voilà, et puis ça apparaîtra sur la page Facebook des éditions Arcane 17.
Des éditions Arcane 17. Allez, écoutez, on le propose aux auditrices et aux auditeurs de suivre tout ça, Chemin de Harlow, Pierre de Manzès, édition Arcane 17, Nouvelle Noire et Rouge. Voilà, Philippe Subercaz.
Voilà, bravo, comme d'habitude. Au revoir, Pierre de Manzès. À très bientôt.
À très bientôt, Pierre de Manzès. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.